Le journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, David n'est pas prêt de vaincre Goliath. Amazon refuse de changer ses pratiques vis-à-vis des PME françaises. Le secrétaire d'État Mounir Majoubi appelle les consommateurs à prendre leurs responsabilités. Le mot boycott n'est pas prononcé, mais c'est ça que ça veut dire. Pavoisé comme Donald Trump, voilà ce qu'on pourrait dire ce matin tant le président américain est content d'avoir été blanchi dans l'enquête russe. Pas de preuves contre lui. Un nouveau procès Mera, du nom du frère du tueur de Toulouse et de Montauban, jugé en appel à partir d'aujourd'hui et toujours défendu par Éric Dupond-Moretti. Les familles des victimes redoutent une nouvelle épreuve. Les européennes, Nathalie Loiseau enfin nommée officiellement pour diriger la liste de la majorité. On en parle entre autres avec votre invité dans 20 minutes, Nicolas.
Oui, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle est dans le grand entretien de la matinale. Vous pouvez dialoguer avec elle comme à chaque fois 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile France Inter.
À la une également, l'avenir des Kurdes, vainqueurs de Daesh en Syrie, coincés entre le marteau turc et l'enclume du régime Al-Assad. L'interdiction potentielle de 7 marques de prothèses mammaires en France. Lego qui se lance dans les jeux vidéo. Et le dernier et somptueux album d'Andrew Bird.
France Inter.
C'est l'éternelle histoire du puissant et du faible, de celui qui impose ses règles sans contre-pouvoir. Chez Amazon, ça s'appelle la loi des reins. C'est ce que subissent les PME qui mettent leurs produits en ligne. Et ne parlez pas au géant américain de bonne conduite. Il n'a pas signé la charte qui sera présentée demain. Son concurrent chinois Alibaba non plus. Alors ce matin, le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi est à la limite de l'appel au boycott dans les colonnes du Parisien. Claire Chaudière, la riposte est en marche.
Avec cette nouvelle charte, l'objectif est de rééquilibrer des relations très asymétriques entre petits fournisseurs français qui mettent leurs produits en ligne sur les plateformes et géants du numérique. Éviter notamment les déréférencements soudains et sans explication à l'origine de pertes de chiffre d'affaires importantes. Sur ce point, Le Bon Coin, La Redoute ou encore Cdiscount ont bien accepté de s'engager, mais finalement, pas Amazon ni Alibaba.
C'est un petit peu surprenant parce que nous discutions déjà depuis pas mal de semaines.
Déception et agacement de François Asselin à la Confédération des PME parmi les initiateurs du texte.
Ça mériterait quelques explications. Pour l'instant, la porte reste ouverte. S'il n'y a pas de volonté d'aller plus loin, eh bien, chacun en tirera les conséquences, et en premier lieu, j'espère, les consommateurs.
En clair, faut-il boycotter Amazon ? Patrick Vignal, député LREM de l'Hérault, qui suit ce dossier avec attention, préfère, lui, lancer un autre appel.
La seule solution, c'est un Amazon Alibaba Made in France. Nous devons inventer notre Amazon français pour pas que nos commerçants meurent demain. Les gens veulent acheter sur Internet. On va arrêter de pleurer, on va se retrousser les manches. Et moi, je propose au gouvernement d'investir un peu. Nous devons le faire à grande échelle.
Avec, pour commencer, deux projets d'expérimentation de plateforme régionale dédiée au Made in France et au commerce de proximité, lancés début avril.
Claire Chaudière, un Américain pas prêt de se laisser entraver ce matin, c'est aussi Donald Trump, en partie libéré du poids de l'enquête du procureur Mueller. Pas de preuves contre lui d'une collusion avec la Russie pendant la campagne présidentielle américaine. Et pas de délit d'entrave à la justice, même si le procureur est moins catégorique de ce point de vue-là. Donald Trump exulte et avec lui ses supporters rassemblés devant la Maison Blanche hier soir. Reportage signé Grégory Phillips.
Devant les grilles de la Maison Blanche, au milieu des touristes et d'un joueur de cornemuse venu gagner quelques dollars, on les repère très facilement avec leurs casquettes rouges « Make America Great Again » vissées sur le crâne. Les supporters du président sont là alors que Donald Trump n'est pas encore rentré de son week-end en Floride. Je suis vraiment très heureuse. Ça prouve ce qu'on savait déjà depuis longtemps, dit Christie, venue de la Virginie voisine. Trump est innocent, il n'y avait pas de collusion, pas d'obstruction, ce sont les démocrates qui ont tout inventé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, Trump va gagner en 2020. Un peu perdu, un peu isolé au milieu de ses casquettes rouges et de ses républicains, Jim le démocrate est tout de même là avec une pancarte sur laquelle il a dessiné un Trump marionnette de Poutine. Moi, je reste persuadé que cet homme est coupable. Ils n'ont pas rendu public tous les détails du rapport. Avec tous ceux autour de Trump qui ont été inculpés, ils avaient tous des liens avec la Russie. Si ça, c'est pas de la collusion, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Will, qui lui aussi est sur le crâne, la casquette rouge des supporters du président, pense que les démocrates vont chercher autre chose sur Trump. Ils vont l'attaquer sur ses impôts, ressortir l'histoire de Stormy Daniels, mais enfin, ils ne trouveront rien sur lui. Les admirateurs de Trump étaient hier soir au diapason du président, qui, juste avant de regagner la Maison Blanche, a simplement fait ce commentaire : aucune collusion, aucune obstruction, exonération complète et totale. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et les élus démocrates au Congrès exigent maintenant d'avoir accès à l'intégralité du rapport. L'Amérique qui va retirer la plus grosse partie de ses troupes en Syrie et que vont devenir les Kurdes vainqueurs de Daesh à Baghouz samedi. Ils ont toutes les raisons de s'inquiéter pour leur avenir, pris en étau entre Bachar el-Assad et la Turquie dans le nord de la Syrie, où se trouve notre envoyé spécial Omar Waman.
Après leur victoire dans le réduit djihadiste de Baghouz, les Kurdes se préparent désormais à affronter leur ennemi de toujours, la Turquie, prête à en découdre avec ceux qu'elle considère comme des terroristes. Seul espoir pour cette minorité du nord-est de la Syrie que Donald Trump renonce à retirer toutes ses troupes. C'était son projet avant finalement de décider de garder pour un certain temps seulement 400 soldats américains sur le sol syrien. Devant un allié aussi peu fiable, aussi peu reconnaissant du sang versé, les Kurdes n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers le régime de Bachar el-Assad qui les a marginalisés par le passé et qui aujourd'hui menace de reprendre le contrôle de ces territoires perdus par la force. Pris en étau entre le marteau turc et l'enclume de l'armée syrienne, les Kurdes disposent d'un énorme moyen de pression. Les milliers de djihadistes qu'ils retiennent dans leurs prisons de fortune, des terroristes qui pourraient prendre la fuite si ces Kurdes, privés de leur parapluie américain, se retrouvaient à la merci de leurs ennemis. Dans le nord-est de la Syrie, Omar Waman, France Inter.
La riposte se prépare en Israël après le tir d'une roquette sur une maison du nord de Tel Aviv. Cette nuit, il y a 5 blessés légers. Le Hamas à Gaza est dans le viseur de Benjamin Netanyahou qui va écourter son voyage aux États-Unis pour revenir superviser les opérations.
France Inter, il est 8h07, la suite du journal Florence Paracuelos.
La douleur des familles, la froideur de l'accusé, les sorties polémiques de son avocat, voilà ce qui est resté du premier procès d'Abdelkader Merah, condamné à 20 ans de réclusion criminelle il y a un peu plus d'un an pour association de malfaiteurs terroristes, mais pas pour avoir été complice des crimes de son frère Mohamed Merah, abattu par le RAID après avoir assassiné 3 enfants et un enseignant d'une école juive et 3 militaires il y a 7 ans. Le parquet avait fait appel, c'est donc un nouveau procès qui aura lieu à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle épreuve aussi pour les proches des victimes. Elles avaient particulièrement mal vécu la défense d'Éric Dupond-Moretti. Elle a aussi perdu un fils, avait-il dit en parlant de la mère de Mohamed Merah. Une des phrases qui résonne encore pour Latifa Ibn Ziaten. Son fils était militaire. Il fut la première victime du terroriste.
L'année dernière, le procès, c'était plus un spectacle qu'un procès. Je pense que certains avocats, ils ont oublié les familles des victimes. Et pourtant, on était là. J'espère que cette année... Il y aura plus de lumière, il y aura un procès plus digne. Ça va être dur, mais pour mon fils, je traverse le monde s'il le faut, parce que j'ai perdu un fils de 30 ans et qu'il faut que cet homme qui parlera, j'espère qu'il parlera de ce qui s'est passé ou la vérité. Les phrases qu'ils ont dit, ça m'a resté gravé quand il dit « J'espère que mon frère restera au paradis ». C'est de tuer cette victime, il pense que son frère sera au paradis, c'est grave, c'est trop dur. J'ai pas besoin de son excuse, parce que son excuse c'est trop tard. Mais au moins qu'on sache la vérité. Moi je voudrais, avant de partir de ce monde-là, de savoir pourquoi son frère aime tuer mon fils.
Latifa Ibn Ziaten au micro de Corinne Audouin. Dans le box des accusés, il y aura aussi Feta Malki, condamnée à 14 ans de prison pour avoir fourni des armes à Mohamed Merah. Ce procès devant la cour d'assises spéciale d'appel de Paris va durer 4 semaines. Nous le suivrons à l'antenne, évidemment, et sur franceinter.fr. Nomination et remaniement en vue au gouvernement. C'est aujourd'hui que Nathalie Loiseau sera officiellement investie tête de liste de la majorité pour les élections européennes. Il va falloir la remplacer au ministère des Affaires européennes et peut-être trouver un nouveau porte-parole pour le gouvernement avec le départ possible de Benjamin Griveaux qui veut la mairie de Paris. Dernière manœuvre donc avant le lancement de la campagne pour ces européennes. On vote le 26 mai et il n'est pas trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales. Les choses ont changé, Delphine Evenou.
Jusqu'à présent, vous aviez jusqu'au 31 décembre de l'année précédente une élection. La nouvelle loi permet de le faire jusqu'au 6e vendredi avant un scrutin. Pour ces élections européennes, le délai a par contre été fixé au 31 mars. Nouveauté également, plus besoin de se ruer en mairie car il est désormais possible de s'inscrire en ligne en fournissant les justificatifs d'identité et de domicile numérisés, même si le courrier postal ou la visite en mairie est toujours valable. Enfin, un citoyen peut se renseigner en ligne sur sa situation sur le site démarche.fr. www.intérieur.gouv.fr pour savoir s'il a besoin d'aller s'inscrire dans sa commune. C'est le répertoire électoral unique mis en place depuis 2 semaines et confié à l'INSEE. Cela permettra d'alléger le travail des mairies qui étaient chargées d'inscrire les jeunes majeurs ou les naturalisés. Les élections européennes du 26 mai seront les premières à se dérouler avec les listes électorales extraites de ce nouveau répertoire.
L'Europe face à la Chine, conquérant économique et technologique, le président chinois arrive à Paris après un dîner avec les Macron sur la Côte d'Azur hier. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Réunion calée demain à l'Elysée avec Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Emmanuel Macron était donc à quelques encablures de Nice hier, au lendemain de la manifestation interdite et de la blessure d'une militante d'attaque au moment où des policiers chargeaient sur la place Garibaldi. Le président lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. Quand on est fragile et qu'on peut se faire bousculer, on ne se met pas dans ces situations-là, dit-il à Nice ce matin. Une situation qui donne lieu à une enquête de la justice. La chasse aux implants potentiellement dangereux. 7 marques de prothèses mammaires pourraient être bientôt interdites en France, susceptibles de provoquer certains types de cancers rares. Voilà ce que prévoirait l'Agence nationale des produits de santé. Pas encore de décision officielle, mais la perspective de l'interdiction totale de ces implants, Véronique Julia, inquiète les chirurgiens plastiques.
En novembre dernier, les spécialistes de chirurgie plastique avaient annoncé avoir passé au peigne fin tous les cas français de lymphome anaplasique à grandes cellules et en avoir tiré une conclusion. Tous les cas concernés montraient une exposition à l'implant biocell d'allergan. Ils en avaient déduit qu'il ne fallait plus l'utiliser, mais sans pour autant jeter l'anathème sur tous les autres implants dits texturés. Car ces implants texturés seraient irremplaçables, estime Sébastien Garçon. Il préside la Société française des chirurgiens esthétiques plasticiens. D'après lui, revenir aux prothèses lisses et interdire la commercialisation des prothèses texturées serait un recul de 30 ans pour les patientes.
Les texturées ont permis de réduire le nombre de réinterventions pour les patientes porteuses d'implants et elles ont permis d'avoir des résultats beaucoup plus naturels. Si on revient à la lisse à l'heure actuelle, on va retrouver une limitation du choix de la forme de l'implant, donc avec des seins de type rond, stéréotypés. Ça serait un recul, une perte de chance pour nos patientes.
Les prothèses texturées en France, c'est 85% des implants posés. Dès le mois de novembre, l'Agence du médicament avait clairement recommandé aux chirurgiens de préférer les implants lisses. En février dernier, une commission d'experts missionnée par cette même agence avait indiqué que les prothèses texturées sans être indispensables pouvaient être utilisées dans certains cas. On attend désormais l'avis définitif de l'agence.
En France, 500 000 femmes portent des prothèses mammaires et près de 60 cas de lymphome rare ont été constatés depuis 2011. C'est un petit prélèvement dans la gorge pour voir si votre angine est bactérienne ou s'il vous faut des antibiotiques. Un test qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale à l'avenir chez le pharmacien. La décision sera prise en comité interministériel aujourd'hui.
Allez, emboîtons des petites briques de plastique maintenant.
On parle des Lego et de leur mue annoncée au salon du jouet de New York. Lego, dernier rempart face aux jeux vidéo, a cédé pour un avenir en réalité augmentée. Mais rassurez-nous, Philippe Lefebvre, dites-nous que les pièces à empiler ne vont pas disparaître.
Les petites briques danoises, à partir de l'été prochain, vont évoluer. Ainsi, les enfants pourront continuer à construire comme par le passé, mais ensuite, via une application de réalité augmentée à charger sur n'importe quel smartphone, eh bien, la construction deviendra le décor d'un jeu vidéo. Mais cela ne fonctionnera pas avec toutes les briques. Il faudra acheter des boîtes spécifiques vendues entre 20 et 130 euros qui permettront de construire un bus, une école, un restaurant ou un bateau. Mais tous seront hantés et le but du jeu sera, via l'application gratuite, elle, de chasser les fantômes qui se cachent dans chaque construction. Et si aujourd'hui Lego se lance de manière importante dans le monde du digital, c'est qu'il y a urgence pour la firme danoise qui voit depuis plusieurs années ses ventes et ses bénéfices baisser. Ainsi, rien qu'en 2017, l'entreprise a vu son chiffre d'affaires annuel chuter de 8%. Inconcevable pour l'entreprise qui fête cette année ses 87 ans et qui jusqu'à présent avait plutôt bien résisté aux assauts des jeux vidéo.
Eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont lâché les Lego pour les jeux vidéo, les Bleus en balade européenne après leur victoire face à la Moldavie vendredi. Ils affrontent l'Islande ce soir pour les qualifications de l'Euro à 20h45 au Stade de France. Les Bleus favoris sur le papier, mais n'oublions pas les Islandais de l'Euro 2016, arrivés en quart de finale et que nous avions finalement battu. Enfin, beaucoup plus subtil qu'un clapping irlandais, le dernier album d'Andrew Bird, le 15e de l'américain grand compositeur et grand mélodiste. My finest work yet, ça veut dire mon travail le plus abouti, Mathieu Culeron. Et ce disque porte vraiment bien son nom.
Sisyphus, peered into the mist, the stones throw from the precipice, pause.
Artiste autodidacte, biberonné au jazz de Lester Young ou encore au classique de Ravel et Debussy, Andrew Bird a depuis toujours un parcours atypique dans le paysage musical américain. Ce nouveau disque a été enregistré très peu de temps après l'élection de Donald Trump.
Avec des amis, nous étions sidérés, au bord de l'hystérie. La chanson Bloodless illustre ça de la façon la plus explicite possible. J'ai écrit ce titre de manière fiévreuse avec un sens de l'urgence jamais ressenti auparavant.
Avec une langueur communicative, le nouveau Andrew Bird est de cette classe supérieure capable de s'affranchir des courants et des tendances. Un travail à l'ancienne qui est la marque de fabrique de cet artisan de la musique.
Je fais des disques impossibles à répliquer avec des équipements modernes. Et ce n'est pas parce que je suis nostalgique, c'est juste parce que, selon moi, ça sonne bien. C'est ce qui se passe avec les disques de jazz. C'est poétique la façon dont les instruments déteignent les uns sur les autres. Quand c'est bien fait, ça sonne de façon extraordinaire.
My Finest Work, bande son parfaite d'un voyage imaginaire signé Andrew Bird, ici au sommet de ses capacités.
C'est vrai que ça sonne à l'ancienne.
Hein. Oui. La bande son de nos vies désormais. Merci Florence Paracuelos.